Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Claire Aignel du collectif pour un réveil écologique au micro de Nouvelle Conscience. Le collectif pour un réveil écologique est créé en 2018, suite à la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique et solidaire et au non-respect des accords de Paris par la classe politique française et internationale. Plusieurs étudiants et étudiantes de grandes écoles font le constat d'un enseignement supérieur incapable de répondre aux enjeux écologiques et environnementaux de notre temps. Et elle impulse le manifeste pour un réveil écologique qui regroupe aujourd'hui plus de 32 000 signatures. Dans ce manifeste, les signataires demandent un enseignement supérieur à la hauteur de ces enjeux. Ils et elles souhaitent ainsi faire pression sur leurs futurs employeurs et provoquer leur engagement autour de ces sujets. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer les initiatives déjà impulsées dans l'enseignement supérieur, tout en nous inscrivant dans une réflexion plus large sur la nécessaire évolution du système éducatif français en matière environnementale et climatique. C'est un plaisir pour moi de vous livrer cette discussion impactante et engagée. Par ailleurs, si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, la meilleure façon de le faire est de me suivre sur Instagram et également me laisser 5 étoiles ainsi qu'un beau commentaire sur iTunes. N'hésitez pas également à m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre pour construire ensemble cette nouvelle conscience. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Je vais très bien, merci.
Donc Claire, aujourd'hui nous allons parler de ton engagement au sein du mouvement pour un réveil écologique. Mouvement qui est apparu à partir de 2018 avec la signature de ce manifeste, c'est bien ça ?
Mmh. Oui, c'est ça, pardon. C'est un mouvement qui est apparu en 2018 avec un manifeste qui s'appelait le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, dans lequel on rappelle l'urgence écologique. Et également, en tant qu'étudiant, on se positionne d'une part en prenant nos responsabilités d'étudiants de grandes écoles, en disant que on a une possibilité que n'ont pas tout le monde qui est de choisir potentiellement un employeur, et donc on s'engage à choisir un employeur qui soit en cohérence avec l'urgence écologique et puis aussi plus proche de notre réalité d'étudiant. On fait le constat qu'on n'est pas du tout formé aux enjeux écologiques alors que ça va être un enjeu absolument majeur de notre vie tout simplement, et notamment la vie professionnelle. Donc on s'engage là-dessus, et c'est à partir de là qu'on a développé tout un travail sur l'enseignement supérieur et également nos relations avec les employeurs.
Super. Donc aujourd'hui, on ne va pas évoquer le volet emploi, entreprise. On va plutôt se concentrer sur les apports du mouvement dans l'enseignement supérieur. Et la première question que je souhaiterais te poser, c'est quelles ont été les évolutions positives ? On va commencer par le positif. Depuis la signature du manifeste et l'apparition du manifeste en 2018, comment l'enseignement supérieur a intégré ces enjeux ? Quels ont été les impacts du manifeste dans les différents établissements que vous avez touchés ?
Sur le positif, il y a déjà plus généralement quelque chose qui est assez manifeste depuis 2018 et depuis qu'on a commencé à pousser cette question précise de la formation, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une question qui ne fait plus débat sur le fait que c'est une nécessité, même s'il y a encore de gros retards dans la plupart des établissements, même sur la mise en place de ces formations. Mais aujourd'hui on ne discute plus cette nécessité et c'est intégré dans un des enjeux d'adaptation du supérieur. Donc ça, c'est un peu sur le discours Mais c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit par rapport à 2018, où en fait les enjeux que les enseignements supérieurs se posaient en lien avec l'écologie, c'était vraiment l'impact carbone des campus, donc des choses collatérales, et pas vraiment en fait ce qui est au cœur de l'enseignement supérieur, qui est la formation et aussi la recherche, évidemment, qu'on va poser aux étudiants. Donc c'était même pas un sujet, et en fait depuis 2018, là aujourd'hui, on se rend compte que non seulement c'est un sujet, mais aussi qu'il est évident pour tout le monde. Après, on peut observer que un certain nombre d'universités commencent à essayer de s'en saisir. Université, établissement du supérieur. Oui. Il y en a un certain nombre qui ont mis en place, par exemple, des rentrées climat avec donc des ateliers, notamment un atelier qui s'appelle la fresque du climat pour tous leurs étudiants. On a certaines écoles qui pensent, qui sont un peu plus ambitieuses, qui pensent une refonte complète de leur programme, comme c'est le cas de l'INSA, par exemple, qui fait ça avec le Shift Project. Donc on a il y a des engagements, notamment également à Paris-Saclay ou La Rochelle Université, des engagements grandissants, même si encore une fois on est loin de la piste d'arrivée, mais on ne peut pas dire que les choses n'ont absolument pas évolué depuis 2018.
Et d'après vos nombreuses études, vos rapports, est-ce que selon vous et donc selon toi aujourd'hui, l'université telle qu'elle existe en France peut intégrer de façon systémique, de façon globale ces enjeux, ou est-ce qu'on aurait besoin d'une réforme structurante de l'université, des grandes écoles, pour justement mettre ces enjeux-là au centre des formations et du fonctionnement même des établissements du supérieur?
Alors c'est une question qui est extrêmement complexe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que ce sujet est admis, ça fait partie des questions qui se sont posées concrètement, comment on implémente ça. Maintenant qu'on a tous admis, c'était une nécessité, de manière plus ou moins honnête, évidemment. Déjà, c'est compliqué de répondre à cette question pour, en gros, les établissements donc les grandes écoles et ingénieurs, sciences politiques et commerce ont quand même des fonctionnements qui sont très différents de ceux des universités. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que globalement, c'est souvent un enseignement en silo, quel que soit d'ailleurs, les établissements, c'est-à-dire que voilà, un ingénieur par exemple ne va pas du tout entendre parler de sciences sociales, ou en tout cas pas vraiment de manière approfondie qui lui permettrait vraiment de comprendre cette discipline, et inversement, en philosophie, donc j'ai fait de la philosophie à l'université et on n'a jamais parlé d'autre chose en fait. Et l'environnement, c'est une discipline qui est extrêmement transversale et qu'on ne peut pas traiter uniquement sous un seul angle.
Oui.
On a une vision biaisée de la situation si on traite sur l'angle purement ingénieur versus si on traite sur l'angle purement sens social, par exemple. On en a des visions qui sont évidemment incomplètes. En fait, il y a une des voies sur lesquelles on commence à réfléchir, qui est une approche qu'on appelle l'approche par compétences, qui est quelque chose d'assez anglo-saxon, mais en gros qui consiste à se poser la question des personnes qu'on veut former et ensuite de créer une formation adaptée. En gros, au lieu de se dire et donc dans l'environnement, ce serait au lieu de dire j'ai un cours qui traite d'environnement, donc c'est bon, j'ai la bonne case. On se demanderait qu'est-ce qu'un étudiant de mon établissement, qu'est-ce que j'ai envie de lui apprendre, en quoi j'ai envie de le former. Donc ça, c'est une approche qui demanderait de transformer vraiment les maquettes pédagogiques, de faire beaucoup plus des liens entre elles. Et donc évidemment, c'est extrêmement difficile à mettre en place dans l'état actuel des choses. Mais une chose est sûre, effectivement, c'est que le côté très cloisonné des formations aujourd'hui ne facilite pas vraiment l'apprentissage d'une discipline aussi, d'un thème aussi transversal que sont tous les thèmes qui touchent à l'écologie et à l'environnement.
Oui. Et les présidents, les présidentes justement des établissements du supérieur, est-ce qu'ils vous soutiennent dans ce processus, ou est-ce que vous êtes un peu seul entre étudiants à mener la barque? Quel est votre lien avec justement les institutions dans cette évolution?
Évidemment, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui sont extrêmement engagés. Il y en a un certain nombre, par exemple, qui avait signé une tribune qui était parue dans le Journal du Dimanche en 2019. Qui vraiment réclamait, notamment de la part du ministère, un appui pour avoir une véritable démarche transformative et des moyens, surtout, parce qu'en fait, maintenant, c'est, comme toute transformation, on a besoin de moyens pour la mettre en place. Maintenant, en fait, on se rend compte que souvent, ce sont les associations qui sont motrices, les associations notamment d'étudiants, parfois des professeurs aussi qui sont moteurs. Et aussi, quelque chose dont on se rend compte, c'est que si l'environnement est de plus en plus, l'écologie est de plus en plus pris en compte, en fait, il y a un besoin de cohérence à la fois dans la stratégie de recherche, dans l'offre académique, mais également les orientations professionnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, parler de l'urgence écologique en cours et en même temps inviter sans aucun recul et sans aucune alternative uniquement des grosses boîtes du CAC 40 pour un forum des métiers, ne présenter que ça en termes de perspectives de carrière. Donc il y a des choses de cohérence. Enfin, en gros, le fait d'avoir cette ambition vraiment transformative et englobante de mise en cohérence de l'ensemble de l'université à l'urgence écologique, ça c'est quelque chose qui est très ambitieux et qui est fait plus ou moins bien. Après, ils sont face à leurs propres difficultés structurelles. Bon, il y a évidemment un effondrement des financements dans l'ESR et notamment les universités. C'est beaucoup moins un problème chez les grandes écoles. Il y a aussi le fait qu'on part de très loin. Donc nous, on a fait une étude qui s'appelle le Grand Baromètre, qui est sortie à la rentrée de 2020, dans lequel on a demandé, on a envoyé un questionnaire à un certain nombre d'universités, de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et de sciences politiques. Et on leur demandait de répondre à un certain nombre de choses. L'idée était pour nous à la fois de se faire une idée sur leur engagement, mais aussi d'envoyer un message un peu clair sur disant nous, on est des étudiants, voici ce qu'on attend de vous. Donc voilà, c'était un peu ce double aspect. Et en fait, dans les réponses, on pouvait voir qu'il y avait seulement 15% des formations qui voulaient former 100% de leurs étudiants à l'urgence écologique. Donc en fait là on se rend compte ça reste une prise en compte purement par ça reste une matière parmi tant d'autres alors qu'en fait nous ce qu'on demande c'est être formé à la réalité de notre monde de demain et qu'on décide d'en faire son sujet principe son cœur de métier ou pas c'est quelque chose qui va se poser c'est un enjeu qui va se poser à tout le monde et le Chief Project avait également sorti un rapport c'était des chiffres du même ordre seulement 10% des formations qui parlent des enjeux énergie climat. Et ça, c'est en plus sans s'intéresser à la qualité même de ces formations qui est un autre sujet.
Oui.
Voilà.
Oui, ça, vous le dites souvent dans les conférences que vous proposez, c'est que c'est du pragmatisme et c'est du réalisme justement d'intégrer ces sujets-là. C'est pas de l'idéalisme, c'est pas un groupe d'individus isolés. Dans vos chiffres, donc il y a 20% des élèves de l'IX de Polytechnique et 11% des élèves de HEC, par exemple, et de l'ESSEC, qui estiment vouloir prendre en compte ces enjeux. Et donc 32 000 étudiants qui ont signé votre manifeste aujourd'hui. Et comment, selon toi, expliquer cette dissonance entre d'un côté des élèves qui sont motivés, qui ont envie d'aller plus loin, et de l'autre un système qui peine à nous écouter et qui avance doucement, plus doucement que nous en tout cas.
Alors, c'est une excellente question, qui au final touche à la complexité même de l'urgence écologique. C'est vrai que le message qu'on raconte dans le manifeste, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a marché, entre guillemets, évidemment, mais tu as rappelé les statistiques dans certaines écoles. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi des écoles qui sont souvent beaucoup moins politisées que d'autres, et qui ont souvent des engagements, c'était très, très peu souvent des étudiants qui avaient déjà un engagement politique ou syndical ou associatif. Et c'est vrai que le message, en fait, il paraît limpide, il paraît évident, qui est de dire, on est en train de foncer dans le mur et on ne parle pas de quelque chose qui est un horizon de plusieurs générations, on parle de choses qui vont se passer de notre vivant, puisque les accords de Paris prennent 2050 comme objectif. Moi, en 2050, j'aurai 52 ans, donc je serai a priori encore au milieu de ma carrière professionnelle. Donc évidemment, dit comme ça, et ce qu'on demande en plus, c'est d'être formé à ces enjeux et de ne pas faire un travail qui soit contre-productif, au moins. Donc ça peut paraître assez limpide, mais c'est vrai qu'en face, déjà je pense qu'il faut, aussi notamment, c'est pour ça qu'on parle d'enseignement, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment de quoi on parle, et je dis ça sans aucune prétention, c'est que j'avais aucune formation réelle à ces enjeux, c'est juste qu'à un moment je m'y suis intéressée, j'ai dû creuser par moi-même, et c'est vrai que notamment les générations plus âgées au-dessus de nous, en fait, on ne sont pas du tout formés à ces enjeux. Et donc, le mettre toujours dans la case RSE, donc responsabilité sociale, développement durable, donc un package qui comprend également des enjeux sociaux, d'égalité, etc., qui sont aussi extrêmement importants, mais qui doivent être traités différemment. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a un peu quelque chose qui est lié à la formation et aussi, tout simplement, si nous, on a une revendication qui paraît extrêmement simple, en fait, dès qu'on la place dans un contexte aussi complexe que celui de l'enseignement supérieur, on se heurte à énormément de barrières culturelles, institutionnelles, dues au manque de moyens, etc. Donc, ça fait que les choses peinent à avancer, évidemment.
Oui. Et au-delà, justement, de ces barrières-là dont tu parlais, est-ce qu'il y a aussi des barrières dans la formation des enseignants? Parce que finalement, on a beaucoup d'experts, peut-être, de ces sujets, mais ce manque de transversalité, ils l'ont eux aussi connu en n'étant pas formés. Tu vois, c'est comme les dirigeants d'entreprise qui, actuellement, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le même panier, mais qui n'ont peut-être pas une connaissance fine de ces sujets-là. Donc là, c'est un peu nous qui allons leur apporter. Mais est-ce que aussi, tu crois que le problème, il vient de la part des enseignants qui n'ont pas, en tout cas, de certains, bien sûr, qui n'ont pas une intégration de ces sujets-là, une compréhension assez globale, une finesse dans leur approche des enjeux environnementaux dans le supérieur.
Ça c'est certain, et ça c'est évidemment certain, et encore une fois, c'est des sujets dont on parle beaucoup plus facilement à notre génération, donc forcément, ceux d'avant. Effectivement, la formation des enseignants, c'est quelque chose qui paraît assez évident. C'est un peu, on parle de former les étudiants, mais il faut des gens capables de les former, et mine de rien, ça manque. Ça, c'est encore un chiffre qu'on avait sorti du grand baromètre, qui était que il y a seulement 35% des établissements, avec des chiffres qui sont très disparates en fonction des types d'établissements. Je crois que c'était autour de zéro pour les universités, par exemple, qui vont former leurs enseignants, former ou au moins sensibiliser aux enjeux écologiques. Et encore une fois, il faut voir dans quelle mesure ils le font, parce qu'il y en a un qui vont encore parler, comme d'un enjeu de communication.
Oui.
Vraiment pas aller dans la complexité de tout ce sujet. Donc, non, évidemment, la formation des enseignants, c'est un sujet qui est capital. Et ensuite, là, on arrive sur un truc sans fin de qui forme les enseignants.
Oui. c'est pas vous qui allez les former quand même. Enfin, c'est pas le but que ce soit les.
Non, bien sûr, c'est pas le but. C'est vrai que les choses qui peuvent être un peu, la fresque du climat que tu connais peut-être.
Oui.
Des conférences, des formats de conférences, ça fait partie des choses qui se font aujourd'hui, que des universités, établissements peuvent faire, et qui sont brandis avec beaucoup de fierté, et à raison, c'est toujours mieux, mais clairement, ça ne fera jamais le travail d'un enseignant qui prend le temps d'aborder le sujet avec ses élèves sur une séance. Et il y a cette question-là, il y a aussi la question en fait, de l'aborder entre guillemets dans toutes les matières. Bon, là, c'est là qu'on devient extrêmement ambitieux, évidemment, mais encore une fois, c'est pas un sujet qui doit être traité en silo, ne serait-ce que par cohérence, et les étudiants s'en rendent compte. Hein. D'ailleurs, je suis dans un parcours spécialisé en politique environnementale, et les cours qui ne traitaient pas de ces sujets, mais qui parlaient par exemple d'énergie, d'économie, etc., et qui ne traitaient pas de ces sujets, les étudiants s'en rendaient compte. Et très souvent, c'est une remarque ou lancer un débat. Donc c'est une cohérence qu'il faudrait, dans l'idéal, retrouver partout. Ne serait-ce parce qu'en plus, on ne veut pas que tout le monde devienne des spécialistes de l'écologie, on veut que tout le monde, dans son métier, soit capable de se saisir de ses enjeux, de comprendre comment ça l'impacte, et de comprendre comment lui-même peut réduire son impact.
Oui. Et donc, au final, j'ai l'impression que la source, c'est même avant l'enseignement supérieur. Ce serait commencer même plus tôt pour distiller, en fait, ces informations depuis peut-être l'entrée à l'école primaire. Pour arriver dans le supérieur, justement, en ayant un socle commun, tu vois, sur toute notre scolarité, sur ce qu'est le réchauffement climatique, le développement durable.
Oui, dans l'idéal, évidemment, ça, si on parle, si on continue à réfléchir dans le meilleur des mondes, c'est évidemment. Et avant, et ça, c'est les associations, notamment You for Climate en France, les regroupements locaux du You for Climate qui travaillent là-dessus, d'autres associations, c'est vrai que nous, c'est, c'est moins exactement ce qu'on fait, mais évidemment, c'est quelque chose qui devrait être abordé dès le début. Oui. C'est vrai qu'on a encore dans les manuels de SVT des aberrations comme voilà, des encadrés qui parlent du réchauffement climatique en disant, bon, ben voilà, il y a des hypothèses qui disent que c'est l'homme et ses activités, il y en a d'autres qui se disent que c'est les cycles solaires.
Oh là là.
Voilà, on a des trucs un peu arriérés qui, mine de rien, sont assez éloquents sur déjà la formation des enseignants, encore une fois, et puis du chemin qui reste à faire. Mm-hmm. Et là, on est en amont et en aval. Encore une fois, il y a aussi mettre en cohérence l'offre de carrière, d'orientation, mm-hmm. Puisque les universités sont aussi, les établissements d'enseignement supérieur sont un lieu d'émulation entre les étudiants. C'est le moment où on découvre à peu près vers où on a envie de se diriger.
Oui.
Et c'est aussi extrêmement important pour ces établissements-là, une fois qu'ils ont fait tout ce travail de formation, d'être capable de présenter une diversité d'offres qui soit un peu en cohérence avec tout ce qu'on raconte sur l'urgence écologique.
Oui. Et est-ce que justement ces enjeux-là sont comptabilisés dans le grand baromètre ? Est-ce que quelles sont un peu les modalités d'action que vous avez relevées dans le grand baromètre ? Quelles sont pour l'instant, à l'heure actuelle, les différentes thématiques d'engagement des établissements de l'enseignement supérieur qui correspondent à la prise en compte de ce sujet ?
Alors oui, non, sur les choses que tu as citées en dernier, donc la rénovation énergétique des bâtiments, le tri sélectif, donc tout ce qui va s'intéresser plus au volet impact du campus, ça c'est un sujet qui est vraiment antérieur à 2018, mmh. qui est présent à peu près dans tous les établissements. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus instinctif. Et c'est vrai que quand on parle d'écologie à l'université, c'est à ça qu'on pense en premier. De la même manière que dans les entreprises, quand on parle d'écologie, souvent ils pensent à faut utiliser moins de papier dans l'imprimante et il faut avoir des gobelets en carton.
Oui.
Donc voilà, c'est la première étape. Mais encore une fois, le cœur de l'activité, de ce que fait un établissement de formation, c'est de former des esprits de demain. Enfin, pour utiliser une formule extrêmement bateau. Et donc, c'est à ça qu'on a envie de s'intéresser en premier lieu. Et pour le coup, c'est vrai que voilà, on ne peut pas dire sans être un peu malhonnête que ces enjeux ne sont pas de plus en plus pris en compte à des degrés très variables. Mais encore une fois, on se heurte quand même à certains problèmes, notamment ce côté très en silo et très spécialisant des enjeux écologiques, c'est-à-dire que c'est très rare quand même aujourd'hui les formations, comme j'ai dit, pour qui c'est obligatoire.
Oui.
Enfin, qui rendent obligatoire à tous leurs étudiants d'aborder ces sujets-là, même un peu. Il y a aussi un manque de moyens humains et financiers. Donc c'est relativisé. Par exemple, il y a 61% des établissements répondants qui avaient au moins un équivalent temps partiel qui était spécialement dédié à ces enjeux. Mm-hmm. Donc ça, voilà, c'était déjà un indice. Mais encore une fois, en fait, c'est quelque chose qui manque, des moyens financiers et surtout de l'intelligence aussi, parce que tout reste à construire, encore une fois.
Oui.
Comment on forme les enseignants, qu'est-ce qu'on leur raconte, c'est des choses qui sont encore à faire. Nous on avait participé à un groupe de travail qui était porté par le campus de la transition, qui était sous le patronage du ministère de l'enseignement supérieur. Et qui visait à définir un livre blanc un peu de compétences à acquérir pour aborder ces sujets-là de manière assez transversale. Donc voilà, c'est des travaux qui tout reste à faire.
Oui.
Qui sont encore à faire.
Oui, donc c'est un gros moment de création et d'anticipation là, dans l'enseignement supérieur pour partir de zéro et tout créer. Grâce à vos compétences notamment.
Oui, sachant qu'on aimerait bien être rejoint par le gros de la troupe, les pouvoirs publics qui globalement ont surtout lancé des groupes de travail bénévoles qui peinent un peu à avancer, donc auxquels nous on participe. Et de la part des universités, que ce soit des sujets qui soient réellement pris en compte.
Oui. Et quels sont ces groupes de travail justement en ce moment ? Quels sont la suite des projets pour le collectif ?
Bah alors sur ces groupes de travail, donc il y en avait un donc que j'ai déjà mentionné sur le livre blanc avec le campus de la transition qui était vraiment sur le fond. Mm-hmm. Il y en a un autre qui est encore en cours, qui a rendu un travail intermédiaire déjà, mais qui est en train d'approfondir ses conclusions, qui était piloté par Jean Jouzel, mm-hmm. climatologue, et qui était là un groupe de travail du ministère de l'enseignement supérieur et qui visait donc en concertation avec tous les acteurs de enfin toutes les associations étudiantes mais également des directeurs d'université etc alors déjà évaluer la pertinence d'un socle commun pour traiter ces enjeux-là et surtout comment le faire en fait parce que ça je l'ai pas abordé mais il y a une complexité assez énorme pour le fait d'avoir un changement qui... Enfin, en gros, c'est compliqué de pencher le changement autrement qu'à l'échelle de chaque établissement. Oui. Déjà parce que, heureusement, bah, les établissements sont souverains sur ce qu'ils mettent à leur programme et c'est, enfin, ils ont une indépendance. Et c'est, mm-hmm. c'est tant mieux, d'ailleurs, évidemment. Mais donc, pour penser les choses, voilà, c'est du coup, ça complexifie. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir et des réflexions à laquelle on participe. Et puis, nous, d'un point de vue plus... plus micro, on participe à certaines initiatives comme la COP2 étudiante, par exemple, qui mm-hmm. donc sont initiées par un groupe d'étudiants et qui notamment visait à aller sensibiliser des écoles et à réfléchir à comment on mettait l'enseignement des enjeux écologiques à la page. Mm-hmm. Donc ça fait partie des. On a toujours un travail aussi de sensibilisation, d'intervention dans les écoles pour porter les outils qu'on a fait et aussi essayer d'intéresser les étudiants à la question.
Mmh. Et dans les écoles, vous sentez les élèves réceptifs? Est-ce qu'ils comprennent cette responsabilité-là et cette nécessité d'en parler?
Alors, bah, moi, je vais parler du coup de mon expérience. Je ne peux pas généraliser au-delà, mais donc, on a quand même une grosse partie sur définir ce que c'est. Donc, on commence à la base. Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, le forçage radiatif, le budget carbone, voilà, des choses comme ça, mm-hmm. Pour à peu près arriver à le constat d'une situation un peu verrouillée. Donc, c'est pas très heureux. Mm-hmm. Et on essaie ensuite d'aborder ce que nous, on a fait, enfin, vraiment de pas prendre une hauteur d'enseignant parce que on pense qu'on n'a ni la légitimité ni la pertinence pour le faire, mais vraiment de raconter ce que nous, face à ce constat-là, on s'est dit qu'il pouvait être pertinent de faire. Oui. Et c'est quelque chose qui résonne énormément, en fait. Enfin, moi, effectivement, j'ai eu des réactions émotionnelles assez intenses, notamment pour cette première partie qui, forcément, est toujours un choc. Enfin, de toute façon, sans choc, moi, j'ai du mal à comprendre, enfin, à me dire que les personnes qui n'ont pas de choc ont vraiment compris ce qui se passait, en fait.
Oui.
C'est normal. Et c'est là qu'ensuite, dans l'idéal, se déclenche une envie d'agir, au moins une envie de comprendre, déjà. Mm-hmm. Et ensuite, une envie d'agir et de prendre le sujet à bras-le-corps et,
oui.
Enfin, d'y s'y préparer et de se construire autour de ça et avec ça, puisque, encore une fois, qu'on le veuille ou non, ça va être assez central dans nos vies.
Oui, d'accord. Donc, vous sentez qu'en fait, leur donner les connaissances voilà, de base sur ces enjeux, ça leur permet d'avoir une prise de conscience, en fait, et donc de réagir.
Évidemment, comme partout, il y a des étudiants qui s'en foutent complètement. Il y en a qui sont beaucoup plus investis. Et oui. Il y en a un gros juste qui, peut-être, ne sait pas et n'est pas formé. À qui aussi ça fait peur. à raison, d'ailleurs. Hein, je veux dire, je pense que même si c'est une majorité... Et donc, ça fait aussi partie de. Enfin, c'est pour ça que la formation est importante, parce que quand on fait ça en vous formant en métier, on ne vous dit pas juste quel est le problème, on vous dit aussi voici en quoi ça vous concerne et voici comment vous pouvez vous saisir de vos enjeux dans votre métier. Et c'est assez fondamental, à mon avis, pour combattre un sentiment ou d'abattement, d'impuissance surtout,
oui.
qui à mon avis qui peut être dangereux parce que justement ça décourage du problème.
Mm-hmm. Oui, vous avez sorti un rapport récemment qui montrait, il me semble, c'était 75% des jeunes qui souffraient d'éco-anxiété ou qui avaient peur justement des effets du réchauffement climatique sur leur vie. Donc on voit que c'est un chiffre qui est énorme. Et donc oui, voilà, c'est ça, se doter en fait de la pleine responsabilisation, la pleine responsabilité de ses moyens, ça nous, ça permet de diminuer voilà la frustration et ça donne aussi voilà, c'est une force motrice pour s'engager.
Oui, et puis moi c'est un chiffre qui m'a énormément surprise parce que alors je ne sais pas pour toi, mais 75% de mes amis ne sont pas tous des écolos.
Oui.
En fait, ça reste une très forte minorité. Même si on prend ceux qui sont allés aux marches pour le climat et juste à ça, ça ne représente toujours pas 75% de mes amis, en fait. Et c'est ça qui m'a impressionnée, c'est de me dire, en fait, effectivement, c'est tout le monde, quoi.
Et
tout le monde a cette vague inquiétude, avec toujours, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent aussi que si la sensibilisation aux enjeux écologiques a beaucoup augmenté, la compréhension de ces enjeux reste toujours très mauvaise. C'est une chose de savoir qu'on va se prendre... quelque chose d'assez lourd sur la tête, mais exactement pourquoi, d'où ça vient, quelles sont les solutions, ça c'est quelque chose qui demande d'y rentrer un peu plus. Et effectivement, face à quelque chose qui peut être un peu paralysant, moi je suis assez persuadée que le simple fait d'en parler, de se regrouper en action collective ou pas, c'est quelque chose qui libère. Enfin, en tout cas, moi, des fois, on a un peu l'impression que les associations écolo, c'est des thérapies de groupe et qui marchent très bien. Alors après, faut pas non plus laisser beaucoup de, enfin, le poids, la responsabilité d'absolument tout à cette autre génération qui malgré tout n'est toujours pas aux commandes.
Enfin, oui. Au poste pour bientôt.
Voilà, c'est pour bien faire.
On arrive.
Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas se permettre. Enfin, voilà, le dernier rapport du GIEC qui est sorti, enfin du groupe 1 du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, disait qu'en gros, pour les 2 degrés, 1,5 degré, c'est à peu près mort. Pour les 2 degrés, c'est la décennie qui arrive qui va être décisive. Donc, en fait, malheureusement, ça va être les personnes qu'on a actuellement aux manettes qui vont être décisives aussi. Donc,
ouais.
Voilà, les jeunes, mais aussi les autres.
oui, on sait, voilà, ça nous incite à agir de concert et comme tu disais, c'est intéressant d'étudier ce chiffre qui se cache derrière ces 75%, parce que voilà, c'est pas que des écolos, c'est pas que des gens mobilisés. On sent que voilà, ce sujet nous concerne tous et toutes. Et après, on a différentes façons de réagir. Et l'information, déjà, c'est la clé de la connaissance, c'est la clé du pouvoir, la clé de l'action. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous, hein, pour.
Je viens de le dire, moi aussi c'est pour moi d'abord. Hein.
Pour toi, oui. Mais en tout cas, pour nous fournir l'information, tu vois, bah, vraiment normaliser, vulgariser ces informations très complexes. Tout le monde n'a pas lu les rapports du GIEC, donc c'est important que les gens qui le fassent, pour ceux qui vont pas se plonger spontanément dans ces lectures aussi. Donc merci Claire. Ouais. On arrive à la dernière question du podcast, qui est pour toi la signification de nouvelle conscience. Donc, c'est le nom du podcast, Nouvelle Conscience. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment tu le ressens quand tu l'entends, le lis?
À première vue, comme ça m'évoquerait d'abord quelque chose de générationnel, mais je trouve ça très orgueilleux pour une génération de se prétendre... Enfin bon, on connaît tous la citation de Camus... chaque génération se croit vouée à refaire le monde. et je ne pense pas que notre génération soit plus vertueuse que la suivante, comme celle qui arrive plus que nous. Donc, nouvelle conscience, j'ai l'impression que ça m'évoque plus, sans dogmatisme ou ésotérisme, évidemment, éventuellement la prise de conscience, enfin, ce qui se passe quand on décide de s'engager et on décide de... Enfin, déjà, en l'occurrence, pour l'écologie, qu'on comprend vraiment toute l'ampleur du problème et qu'il n'y a pas de solution facile. Mm-hmm. Du coup, je m'intéresserais plutôt à ce qui se passe quand on est dans un mouvement comme ça, au-delà de ce qu'on fait, tout simplement, qui est se retrouver au centre d'une émulation qui est très souvent passionnante, de rencontres de points de vue aussi. Si on reste sur les formations, moi j'ai une formation en sciences politiques l'association dans laquelle, enfin le collectif, était pour moi la première fois que j'étais en contact avec des gens qui faisaient pas les mêmes formations que moi.
Ouais.
Donc c'est aussi ça que ça apporte, quoi.
Ouais, justement d'être en lien avec d'autres consciences, voilà, la conscience scientifique, la conscience plutôt politique et ouais, vers un objectif commun. Bon, merci beaucoup. Voilà. On peut vous retrouver sur LinkedIn. Vous avez un très bon site internet aussi, sur Instagram. Vous pouvez aussi signer le manifeste. Hein. Vous avez toujours besoin de nouvelles signatures, j'imagine. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.